L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Hebdo Région des Pays de la Loire. Les attaques de chevaux se multiplient en France depuis quelques mois et ce phénomène n'épargne pas les Pays de la Loire où les gendarmes recensent 11 cas depuis le mois de février et on en joue. L'inquiétude est grande parmi les propriétaires de chevaux, même si l'on ne veut pas tomber dans la psychose. Les aides à domicile, grand oublié du déconfinement et du Ségur de la santé, c'est le ressenti des milliers d'aides à domicile qui ont été pourtant en première ligne auprès des personnes en situation de précarité. Rencontre avec l'une d'entre elles qui vient de créer un syndicat des aides à domicile en milieu rural en Mayenne. Au Mans, dans la Sarthe, un supermarché pas comme les autres va bientôt voir le jour. L'association Les Fourmis Sartoises lance ce projet inédit basé sur le modèle d'une coopérative. L'objectif n'est pas de faire du profit, simplement de gagner assez d'argent pour payer le local, mais surtout de faire vivre des producteurs locaux tout en proposant des produits moins chers aux consommateurs. Et puis 2 mois après son incendie, la cathédrale de Nantes reste fermée au public. L'incendie a détruit le grand orgue de la cathédrale, mais pas seulement. Nous ferons le point sur les dégâts et les travaux à venir avec Marc Le Bourris, le directeur régional des affaires culturelles. Et enfin, direction la Vendée, au château de la Flosselière, pour évoquer un des rares salons du livre à ouvrir ses portes en ce moment. Preuve que le livre, ses acteurs, même en région, ne veulent pas mourir et cherchent à renouer avec le public. Voilà donc pour le sommaire de cette hebdo-région des Pays de la Loire. Il vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Les attaques de chevaux se multiplient en France depuis quelques mois et ce phénomène n'épargne pas les Pays de la Loire où les gendarmes recensent 11 cas depuis le mois de février, 5 en Maine-et-Loire, 3 en Loire-Atlantique, 2 en Mayenne et 1 en Vendée. Dans la plupart des cas, il s'agit de blessures, sauf en Vendée où un cheval de course a été retrouvé mort en février dernier près des Sables-d'Olonne, l'une de ses oreilles coupée. Dans le Saumurois, 3 chevaux pourraient avoir été victimes d'une injection. On ne sait pas de quel produit, les analyses sont en cours, mais leur comportement est devenu anormal. Et dans les écuries de Maine-et-Loire, Marion Bastide, tout le monde est sur le qui-vive.
Aux écuries de la Riverie, à Beaucouzé, près d'Angers, une trentaine de chevaux passent la nuit dans les prés. Il n'y a pas assez de boxes pour tous les faire rentrer. Laurent Cadeau, le patron, redouble de vigilance depuis quelques semaines.
C'est comme tout. Au départ, quand on entend ça pour la première fois, on a l'impression que ça arrive que dans des régions assez loin. Et au fil du temps, c'est vrai que ça commence à se généraliser un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus sur les gardes. Et puis on fait des rondes. Le soir, avant de me coucher, je fais une tournée avec le quad. On fait le tour des parcelles et puis dès qu'on voit une voiture qu'on ne connaît pas, qui est garée à proximité, on va jeter un coup d'œil.
Il habite à 100 mètres des écuries, mais laisse quand même un quad garé chez lui le soir pour arriver plus vite au moindre bruit suspect.
Après, je ne veux pas non plus rentrer dans la psychose à ne plus dormir non plus, parce que sinon c'est ingérable. Mais c'est vrai que le matin, quand je soigne mes chevaux à 7h, je fais ma tournée, j'y pense. Je me dis, j'espère que... Après, on ne peut pas surveiller 24-24, c'est compliqué. Mais c'est vrai que oui, on y pense un peu, parce qu'on se dit ça arrive chez les autres, pourquoi pas chez nous ?
Face à cette inquiétude, les gendarmes se mobilisent, Marion.
Effectivement, depuis le signalement du premier cas en Maine-et-Loire, il y a 2 semaines, la gendarmerie de Maine-et-Loire multiplie les patrouilles autour des écuries. Ils sont venus voir une quarantaine de propriétaires de chevaux du Haut-Anjou, réunis dans une ferme de la Jaillivon la semaine dernière, pour leur donner quelques conseils. Le lieutenant-colonel Stéphane Équipé s'occupe de la communication.
Effectuez une surveillance quotidienne de vos chevaux au pré. Évitez de laisser le licol quand l'animal est au pré, de façon à éviter justement à pouvoir l'attraper beaucoup plus facilement. Si vous en avez la possibilité, la pose de petites caméras de chasse peut être également envisagée. À ce titre, justement, vous pouvez vous retourner vers la brigade de gendarmerie ou un référent sûreté, un correspondant sûreté local, pourra vous aider justement à poser au bon endroit de façon à ce que ce dispositif soit le plus efficient possible. 4e recommandation, donc signaler bien entendu à la gendarmerie en faisant le 17 tout événement ou toute chose anormale à vos yeux. Une personne, un véhicule.
Les caméras de chasse qui se déclenchent au passage d'un animal ou d'un humain enregistrent la vidéo qui peut servir ensuite de base aux enquêteurs. Elle coûte une centaine d'euros. Certaines qui sont plus chères envoient même des photos en temps réel sur votre smartphone, ce qui peut permettre de donner l'alerte.
5 enquêtes sont donc ouvertes en Maine-et-Loire. Où en est-on, Marion ?
Alors pour le moment, aucun suspect n'a été arrêté en Anjou et les motifs de ces attaques restent très flous pour le lieutenant-colonel Stéphane Équipé.
Soit une vengeance dans le milieu équestre, quelqu'un qui a pu avoir un différend, un déséquilibré, ça arrive dans tous les domaines et pas que justement dans le monde du cheval. Un change morbide sur Internet, c'est quelque chose qui est de plus en plus évoqué où à la limite, on va compter justement le nombre d'oreilles qu'on a pu recueillir. Voilà, donc toutes ces pistes-là sont possibles et envisageables et rien n'est écarté pour l'heure.
Ce qui est sûr, en revanche, c'est que de tels actes de cruauté envers des animaux sont passibles de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Pour conseiller et soutenir les propriétaires de chevaux qui s'inquiètent, le gouvernement vient de mettre en place un numéro vert, le 0800 738 908. Il est joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h. Au bout du fil, une quinzaine d'agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Dans le reste de l'actualité régionale, samedi matin, au réveil, les habitants d'Angers, Cholet, Saumur, Trélazé et la commune déléguée de Beaupreau devront tous, sans exception, se munir d'un masque pour circuler n'importe où. Cela concerne toutes les personnes à partir de 11 ans, sauf celles qui circulent en voiture, à scooter ou à moto. Décision prise par le préfet de Maine-et-Loire hier, car ces 5 communes dépassent le taux de cas positif du département, qui est de 4,4%. Le Maine-et-Loire, qui a passé le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants, devrait bientôt passer en zone rouge. Une dégradation qui concerne aussi toute la région. Le masque sera aussi obligatoire sur tout le territoire de Nantes et Saint-Nazaire, mais aussi Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire et Bouguenay. 2 militants identitaires de l'Alvarium à Angers seront jugés pour violence en réunion le 12 janvier prochain au tribunal d'Angers. Arrêtés mardi soir à Angers, les deux hommes âgés de 18 à 24 ans sont sortis de garde à vue jeudi. Ils sont soupçonnés de violence sur des passants devant un immeuble qu'ils disent squatter pour héberger des SDF routières. Des passants auraient tenté d'enlever des banderoles réclamant la préférence nationale en matière de logement. Le réseau angevin antifasciste appelle à un rassemblement antiraciste samedi à 14h, place Molière à Angers, pour protester contre l'occupation illégale de ce bâtiment par les identitaires.
L'Hebdo-Région rencontre avec.
Les aides à domicile sont souvent en première ligne auprès des personnes en situation de précarité. Cela a été et est encore particulièrement vrai dans ce contexte sanitaire compliqué qui dure maintenant depuis plus de 6 mois. Ces professionnels se sentent pourtant ignorés et méconnus. Isabelle Rupin, pour Fidélité Mayenne, vous êtes allée à la rencontre de Nathalie Savenot. Elle vient de créer un syndicat des aides à domicile en milieu rural en Mayenne.
C'est pourtant un marché qui est en pleine croissance, puisque selon les chiffres de l'association Petit-Fils, qui propose des services donc aux grands-parents, en 2000, il y avait 590 millions d'heures rémunérées dans le secteur des services à la personne. Et en 2016, les chiffres hélas les plus récents que j'ai, il y en avait 888 millions. Donc c'est dire la croissance. Et en effet, ces personnes d'aide à domicile ne se sentent pas reconnues et c'est bien cela qui a motivé la création de ce syndicat porté par Force Ouvrière. Donc Nathalie Savenot fait d'abord un état des lieux de la non-reconnaissance financière, mais pas seulement.
On se sent totalement oublié. Je pense qu'au niveau financier, parce que de toute façon, nos salaires sont bloqués depuis plusieurs années. Au niveau des kilomètres, il faut savoir que ce sont nos voitures personnelles qu'on utilise. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une revalorisation du prix du kilomètre. Il faut savoir qu'actuellement, on est payé à 0,35 du kilomètre. On avait manifesté un petit peu pour ça aussi, mais ça n'a pas bougé depuis, donc j'ai rien qui bouge en fait. Moi, personnellement, j'ai mon diplôme d'auxiliaire de vie, donc je suis payé au-dessus du SMIG. Donc moi, actuellement, si j'enlève les kilomètres que je touche par mois, j'ai un contrat de 130 heures parce que j'ai pas un temps plein. Il n'y a pas de temps plein pour dire chez nous. Donc je me fais en moyenne un salaire de 1200 ou 1300 euros par mois. Et je suis la mieux payée à l'association. Dans celles qui ont les contrats à 130 heures, on est les mieux payés. Avec un diplôme, parce qu'après, évidemment, il y a celles qui sont encore au SMIG. Chez nous, il y a beaucoup de petits contrats, faut pas l'oublier. Ça varie d'un mi-temps, d'un trois quarts de temps, des contrats de 110 heures, 120 heures, 130 heures. Donc. Et il faut savoir que si entre deux personnes, on a plus de trois quarts d'heure de battement, on ne compte pas nos kilomètres. Donc ça aussi, ça a un coût énorme. Quoi.
Sur le temps partiel, Nathalie Savenot est mitigée, comme vous allez l'entendre.
Pour certaines, c'est choisi. Et comme on est en milieu rural, on a parfois des trajets assez importants à faire entre chaque personne. Donc moi, 130 heures à Évron, sur Évron, où je suis, c'est le maximum que nous, on fait. Et on ne peut pas avoir de temps plein.
C'est aussi une reconnaissance sociale et professionnelle que réclament les aides à domicile en milieu rural par la voix de Nathalie Savenot.
Comme mes collègues me disaient, ce qui les blesse énormément encore actuellement, c'est que de toute façon, quand on parle de l'aide à domicile, on parle de la simple femme de ménage. On a toujours cette image-là. Il faut savoir que depuis quelques années, notre métier a énormément évolué. On fait du soin à la personne. Donc on fait des douches, on fait des aides à la toilette. On utilise le matériel médical comme les aides-soignantes, qu'elles ont, qu'ils soient en EHPAD ou quoi que ce soit.
Isabelle, on aurait pu s'attendre à ce que les aides à domicile soient invitées au Ségur de la Santé en juillet dernier.
Oui Thomas, et on ressent toute l'amertume et la déception de ne pas avoir été conviée dans les propos de Nathalie Savenot.
Non, on espérait un petit peu. Et là, encore une fois, on a notre place, elle n'est pas dedans. Alors quand j'entends le gouvernement qui dit nos aînés, il faut qu'on les maintienne à domicile le plus longtemps possible, moi je suis d'accord. Mais voilà, on va manquer de bras. D'abord, notre métier ne recrute plus parce que c'est trop difficile et les salaires sont vraiment très bas. Il faut que les gens prennent conscience du métier qu'on fait. Le syndicat, c'est pour ça, c'est pour que ça bouge. Moi, la prime qu'on a reçue du département, merci, ça fait du bien pour ceux qui l'ont reçue. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une augmentation de salaire et que les diplômes soient mieux reconnus.
Si la reconnaissance financière dépend des hautes sphères, ce qui dépend de nous, en revanche, c'est le regard que l'on porte sur ces aides à domicile, ainsi que conclut Nathalie Savenot.
Je pense que ça serait une belle reconnaissance à notre niveau déjà et qu'on voit l'importance de notre métier aussi pour maintenir nos aînés à domicile.
Isabelle Rupin pour Fidélité Mayenne. Merci beaucoup Isabelle. Et puis dans la même veine, le réseau associatif des ADMR organise une opération nationale de distribution de sacs à pain identifiés à partir de son sigle. Ce sont 242 000 sacs qui devraient être distribués chez les boulangers de notre région des Pays de la Loire. Tous les trois jours, un pompier est agressé par quelqu'un qu'il vient secourir. Voilà le message choc que l'on peut lire sur certains camions de pompiers à Nantes et ailleurs en Loire-Atlantique. Depuis quelques jours, 9 de ces ambulances ont changé de look afin de sensibiliser les gens sur le quotidien de plus en plus difficile de ces soldats du feu. Sur un des flancs du véhicule, une immense affiche représentant un sapeur-pompier derrière une vitre brisée a été collée. À terme, la totalité des 120 véhicules porteront cet habillage.
L'Hebdo-Région, initiative.
Au Mans, dans la Sarthe, un supermarché pas comme les autres va bientôt voir le jour. L'association Les Fourmis Sartoises lance ce projet inédit basé sur le modèle d'une coopérative. Manon Foucault, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et la particularité de ce commerce, Manon, c'est qu'il n'y a pas de salariés.
Exactement. Alors le but, c'est pas de faire du profit, mais de faire vivre des producteurs locaux et de réduire au maximum le coût des produits pour le consommateur. Le chiffre d'affaires, il doit seulement permettre de régler les frais du local. Et ce sont les bénévoles de l'association qui font tourner la boutique, comme l'explique Charline Edon, la présidente des Fourmis Sartoises.
C'est une alternative à la grande distribution, coopérateur, donc qui est à la fois un client, un consommateur, mais aussi un travailleur, qui reprennent en fait le contrôle de tout ça. L'idée, c'est vraiment que le supermarché, il appartient à ces coopérateurs. Donc en fait, en gros, les personnes détiennent des parts sociales dans la coopérative. Participatif, ça veut dire que les gens ont participé au projet. Donc par exemple, là, on peut participer en conceptualisant le projet, en réfléchissant au projet, quel type de supermarché on veut. Et une fois que le supermarché sera ouvert, c'est vraiment travailler dans le supermarché quelques heures par mois ou plus, si les personnes ont du temps et l'envie.
Ce modèle de supermarché existe déjà à Rennes, à Paris et même à Montpellier. Au Mans, les recherches sont en cours pour trouver un local, mais rien ne presse, car l'association est née à la fin de l'été. La priorité, c'est de trouver de nouveaux collaborateurs pour rejoindre la dizaine de membres actifs.
Comment est né ce projet au Mans ?
Mais tout part d'un ciné-débat organisé à l'automne dernier. Le film projeté racontait l'histoire d'un supermarché autogéré aux États-Unis. L'idée de reproduire ce modèle est née ce soir-là au Mans. Elle a évolué ensuite par le bouche à oreille et le concept a plu notamment à Véronique Drouet. Elle est maintenant référente locale et approvisionnement pour l'association.
J'ai été attirée par le projet, par la rencontre avec les autres, l'accueil du groupe de travail qui était déjà mis en place. Et puis l'idée aussi de pouvoir consommer des choses de qualité à des coûts plus accessibles. Et puis, comme on disait aussi, c'est créer du lien, faire avec d'autres. Ne pas rester isolé chez soi, mais vraiment prendre part à un projet collectif. Et puis aussi, dans l'idée du supermarché, c'est pouvoir mettre en commun nos compétences.
Ce supermarché coopératif et participatif sera un lieu de vie, pas seulement de passage. Les circuits courts sont au cœur du projet, précise Véronique Drouet.
L'idée, c'est d'avoir tout produit comme dans une grande surface classique. Ça va des fruits et légumes jusqu'aux produits d'hygiène. En fait, notre projet, l'idée, c'est qu'on ait des produits qui soient directement liés à un producteur, où en fait, il n'y aura pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, dans l'idéal. Ce qui fait qu'après, le prix est plus accessible au consommateur, hein, puisqu'il n'y a pas de marge d'établi, ou un peu moins, que dans une grande surface classique.
L'objectif des fourmis sartoises est de proposer des produits jusqu'à 25% moins chers qu'en grande surface. Des prix avantageux réservés uniquement aux membres de l'association.
En 2019, deux supermarchés coopératifs ont ouvert dans les Pays de la Loire, aux Herbiers et à Nantes. Il en existe 25 partout en France. Dans le reste de l'actualité économique, frappé par la crise économique liée au Covid-19, le constructeur de bateaux vendéen Beneteau a annoncé mardi qu'il pourrait supprimer jusqu'à 1390 emplois dans le monde, soit un sixième de ses effectifs. Pour son activité bateau, Beneteau envisage ainsi de fermer un site aux États-Unis et un autre en Slovénie et de mettre en sommeil 2 sites sur 10 en France, ceux de Challans et L'Herbaudière à Noirmoutier. Au total, 395 emplois sont menacés en Vendée et en outre, le site de Saint-Hilaire-de-Riez, qui fabrique les moteurs de catamarans, serait transféré aux Herbiers. Beneteau, qui construit également des mobilhomes au sein de sa division Habitat, compte par ailleurs fermer un de ses 7 sites en France et ralentir l'activité de son site italien. Un grand panneau rouge indique une fermeture définitive du magasin Alinéa du parc Monceau au Mans. Et cela dès samedi, 51 salariés sartois sont licenciés. Et c'est la même chose en Anjou. 73 salariés du magasin de Beaucouzé, près d'Angers, restent sur le carreau. L'enseigne est placée en redressement judiciaire depuis le mois de mai. Le tribunal de commerce de Marseille doit rendre sa décision quant à l'offre de reprise ce lundi. Mais malheureusement, les deux magasins du Mans et d'Angers ne font pas partie de l'offre de reprise.
L'Hebdo-Région. L'actualité religieuse.
2 mois après son incendie, la cathédrale de Nantes reste fermée au public. C'est un bénévole de la paroisse, un réfugié rwandais sans papier, accueilli depuis 5 ans par le diocèse et dont la dernière demande de régularisation venait d'avoir à nouveau été refusée, qui a avoué avoir mis le feu dans la nuit du 18 juillet. L'incendie a détruit le grand orgue de la cathédrale, mais pas seulement. Nous faisons le point tout de suite sur les dégâts et les travaux à venir avec Marc Le Bourris, le directeur régional des affaires culturelles, au micro d'Anthony Torzec.
Alors comme tout le monde le sait, nous avons eu 3 départs de feu. Un départ de feu à proximité du tombeau des parents d'Anne de Bretagne. Donc nous avons eu les plus grandes frayeurs puisqu'il s'agit d'une œuvre majeure de la Renaissance. C'était un tableau électrique qui a pris feu, mais le tombeau est intact. Le second à proximité de l'orgue de chœur. La console, vous le savez, a disparu, mais la partie instrumentale de l'orgue de chœur est intacte et elle aura besoin d'un bon relevage, d'un bon nettoyage. L'orgue de chœur qui est vraiment le plus bel orgue de chœur que nous avons en France. Ce n'est pas un petit orgue, il y a plus de 40 jeufs. Et c'est un orgue qui pourra d'ailleurs, le temps qu'on reconstruise, est beaucoup utilisé. Et puis, vous le savez, le 3e départ de feu, ça a été sur la tribune et le grand orgue a complètement disparu. Nous avons aussi une disparition d'un tableau très important, y compris dans l'histoire de l'art, de Saint-Clair guérissant les aveugles, qui était au-dessus du tableau électrique, qui était parfaitement masqué, le tableau électrique, derrière des boiseries néo-gothiques. Donc ce tableau a malheureusement disparu.
Que s'est-il passé depuis ce 18 juillet, depuis l'incendie de la cathédrale de Nantes ?
Alors, première chose, il a fallu sécuriser, puisque vous savez que la verrière a été complètement soufflée par la chaleur. Donc, elle est quand même très endommagée. Donc, il a fallu l'étayer au niveau du triforium. Ensuite, il a fallu effectivement mettre cette cathédrale en sécurité du point de vue de l'intrusion et d'un éventuel futur incendie. Donc, nous avons des systèmes autonomes qui nous permettent effectivement de garantir la sécurité anti-intrusion et anti-incendie. Et puis, la découverte, mais ça ne vous étonne pas. Nous avons plusieurs dizaines de jeux d'orgue en étain, la plupart en étain, quelquefois ça peut être aussi en bois, mais partie en fumée. Donc nous avons un chantier plomb. C'est une dimension importante pour les personnels appelés à travailler dans ce chantier, donc avec une législation très très spécifique. Et actuellement, nous sommes en train d'effectivement établir avec un BET spécialisé les conditions de travail, puisqu'il faut scaphandre, c'est-à-dire une tenue complète, sur chaussures, combinaison, masque, tout ça doit être renouvelé à chaque intervention. Donc on est en train d'établir effectivement ce protocole très très précis, et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à travailler vraiment à la reconstruction des trois parties très endommagées.
La fin des travaux, c'est pour quand ?
Alors très difficile de se prononcer, puisque nous avons un chantier avec du plomb, donc ça va demander un protocole très très spécial d'intervention, déjà de dépollution. Donc nous avons passé commande à un bureau d'études techniques spécialisé pour la question de la dépollution, nous l'attendons. Et puis la première chose à faire sur cette cathédrale, c'est effectivement de rétablir l'électricité. Elle a été fort endommagée. Nous avions eu bien sûr un rapport favorable pour l'exploitation électrique de la cathédrale au mois de juillet. Voilà, donc on ne va pas refaire complètement l'électricité, mais on va d'abord faire un diagnostic sur les parties que nous allons conserver et les parties que nous allons remplacer. Donc ça, c'est la première chose à faire, puisque pour le moment, la cathédrale est en sécurité du point de vue incendie et du point de vue intrusion, mais avec des systèmes autonomes sur batterie. Après, nous aurons un protocole de décontamination et puis on pourra attaquer dans le dur de la restauration. L'idée, c'est quand même de pouvoir rouvrir à la visite et au culte le plus rapidement possible, en particulier sur le chœur et du côté du tombeau d'Anne de Bretagne, et certainement en fermant le massif occidental qui a le plus souffert. Donc on aura besoin de venir avec une nacelle investiguer les voûtes qui ont visiblement assez souffert, puisqu'on a des pierres qui tombent, des clés de voûte qui tombent. Donc il y a eu de grandes chaleurs et on a une réaction du bâtiment qu'on ne s'explique pas complètement. Mais on va là-dessus investiguer le plus vite possible dès qu'on pourra faire rentrer une nacelle dans la cathédrale.
Marc Le Bourris espère que la cathédrale pourra réouvrir d'ici un an. Quant au coût du chantier, il est estimé à 10 millions d'euros, pris en charge par l'État puisqu'il en est le propriétaire. Et à cela s'ajoute le prix de la construction d'un nouvel orgue. La Fondation du patrimoine a lancé un appel aux dons.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Direction la Vendée, maintenant, pour conclure cette Hebdo-Région. On y retrouve Grégoire Moreau de RCF Vendée. Bonjour Grégoire.
Bonjour Thomas.
Alors Grégoire, après l'annulation du salon très important pour l'Ouest avec ses 45 000 visiteurs, de celui de Montaigu en avril dernier, certains salons du livre, plus modestes, jouent la carte de la rentrée du mois de septembre. Preuve que le livre, ses acteurs, même en région, ne veulent pas mourir et cherchent à renouer avec le public.
Après le château de la Durbelière l'an passé, c'est le cadre prestigieux du château de la Flosselière, en Vendée, près du Puy du Fou, qui accueillera la deuxième édition du Salon du Livre des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains. Au programme, plus de 70 auteurs venus de toute la France, avec une part belle pour la Vendée et le Grand Ouest. Le salon sera placé sous la présidence d'honneur de l'écrivain Laure Hillerin, spécialiste de Marcel Proust et biographe de la Duchesse de Berry. Un salon qui arrive à point nommé après une période difficile pour les éditeurs et les auteurs. Claude Boisumeau, président de l'association Histoire et Culture en Bocage, organisatrice de l'événement.
Le patrimoine et le livre se marient assez bien, ma foi. Et puis sur celui de la Flosselière, on bénéficie quand même d'un cadre absolument exceptionnel mis à la disposition des auteurs. Et puis ce salon, il tombe très bien parce qu'il faut savoir quand même qu'avec toute la période du coronavirus, bon nombre d'auteurs n'ont pas pu avoir de dédicaces dans les librairies, n'ont pas pu rencontrer leur public. Grâce à ce salon, on va pouvoir renouer un petit peu avec cette tradition-là.
Il faut peut-être davantage justement créer les conditions de la rencontre lecteur-livre.
À l'époque du tout numérique, je crois qu'il est important de rester proche du support papier. En ce qui me concerne notamment, moi je ne peux pas lire un livre sur une tablette, c'est pas possible. Et puis j'aime le livre non seulement par son contenu, mais je l'aime aussi en tant qu'objet.
Un prix littéraire, le prix Henri de la Roche-Jacquelin, sera remis le samedi à 14h30. Parmi les livres en lice, entre autres, le thriller religieux Le Linceul de François Dubreuil, l'épopée de la découverte et du sauvetage de la Vénus de Milo par Constantin Mourouzi, ou encore le nouvel ouvrage majeur du juriste Jacques Villemin sur le génocide vendéen. Arnaud Squillier, une des chevilles ouvrières du salon.
Alors c'est vrai qu'organiser un salon du livre, c'est toujours beaucoup de travail. Encore plus cette année, vu le contexte sanitaire, il y a des normes à respecter, bien entendu. On va remettre un prix La Roche-Jacquelin à l'ouverture du salon du livre. Donc il sera décerné par Madame Laure Hillerin, qui connaît bien aussi l'histoire du château, puisque par sa famille, elle est liée à ces lieux.
Alors Laure Hillerin, pour la décrire rapidement, c'est une romancière et historienne, c'est ça ?
Oui, romancière et historienne. Elle a notamment publié il y a une dizaine d'années une biographie de la Duchesse de Berry. C'est la première année que ce prix sera décerné avec un jury. Alors dans le jury, on aura des auteurs bien connus, dont Yves Jolier. Mais pas seulement des auteurs, on aura également des journalistes et aussi des lecteurs, puisque le but c'était d'ouvrir aussi ce prix, que ce ne soit pas seulement réservé à un cénacle.
Dans ces 70 auteurs, On va tous les citer, mais un petit florilège, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Qu'est-ce que vous aimeriez que finalement les visiteurs découvrent?
C'est vrai que tous les auteurs sont à découvrir et j'incite tous vos auditeurs à venir au salon pour découvrir tous ces auteurs. On aura Yves Jolier, bien sûr, qui nous fait l'amitié de revenir cette année. Le prince Mourouzi, donc, qui est retenu dans la sélection du prix La Roche-Jacquelin. On aura Laure Hillerin, bien entendu, présidente d'honneur. On aura Guimette de Sérigné. On aura Philippe Pichot-Bravard également, qui vient de faire paraître un roman sur les guerres de Vendée, ça s'appelle L'épopée de la Vendée. Voilà, des auteurs plus locaux, beaucoup d'auteurs vendéens. Quand je dis vendéen, c'est aussi au sens large, la Vendée historique, mais des auteurs de l'Ouest aussi en général.
Voilà, le Salon du Livre des Journées du Patrimoine, ça se tient du 19 et 20 septembre prochain en Vendée à la Flosselière. Vous pouvez avoir plus d'informations sur la page Facebook de l'événement Salon du Livre d'Histoire et du Patrimoine.
Après le château de la Durbelière l'an passé, c'est le cadre prestigieux du château de la Flosselière en Vendée, près du Puy du Fou, qui accueillera la deuxième édition du Salon du Livre des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains. Et voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.